Salut, c'est Fred Testo, bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Avec nous Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On démarre avec un témoignage particulièrement révélateur des problèmes d'addiction, celui de Paul.
J'ai débuté les paris sportifs à mes 18 ans. Très vite, j'ai eu un gros gain. Je pariais non-stop. Je l'ai caché à mon entourage. Ça a duré plus de 9 ans et je me suis retrouvé dans une situation de surendettement.
Mohamed Bouafsi, votre analyse ?
Quand il commence à jouer, Paul, il est très jeune. Qui dit jeunesse, dit vulnérabilité. Et après ça, on tombe dans le jeu compulsif. L'engrenage, on croit qu'on peut gagner facilement et rapidement de l'argent.
Laurent Carilla, comment on tombe dans le jeu problématique ?
Il y a d'abord ce gain avec des émotions difficiles à gérer. Il y a d'autres étapes qui s'ajoutent, la perte, l'espoir de se refaire. Et l'étape d'après, c'est le désespoir avec ses conséquences. Tous les joueurs, même modérés, peuvent basculer dans le jeu problématique.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra, peut-être le dernier d'ici les finales NBA parce qu'on est tout proche du dénouement et Boston qui est le premier finaliste qui vient de sweeper les Pacers après un parcours quasi parfait, 4-1, 4-0. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec toi Xav, est-ce que Boston sera quoi qu'il arrive le favori de ces finales NBA ?
Non, pas forcément. Dallas ou Minnesota, même si
ça devrait être Dallas.
Ça devrait être Dallas, on ne sait jamais. Mais effectivement, on y va tout droit. Pas forcément. Ils sont sur une. Enfin, ils déroulent tellement leur basket que je pense qu'ils sont remplis de confiance, que les deux premiers matchs à domicile vont déterminer énormément de choses sur la série. Mais évidemment que Dallas semble avoir toutes les armes possibles pour poser les plus gros problèmes possibles à Boston, surtout qu'on a appris que Maxi Kleber pourrait revenir. Et ça a l'air de rien comme ça, mais un Maxi Kleber, c'est quelqu'un à l'intérieur qui pourra vraiment gêner un Porzingis, qui pourra déjà donner 6 fautes. On verra le temps qu'il aura. Non, je pense que Boston a l'air favori comme ça, mais qu'on aura une finale bien plus ouverte que ce qu'on vient de voir en finale de conférence Est.
Oui, parce qu'on pourrait avoir deux sweeps depuis plus de... Alors, je crois que la date exacte, c'est 1957, c'est ce que je t'ai dit.
Excellente année.
Et voilà, année de naissance de Jacques Monclar, la dernière fois qu'il y a eu deux sweeps en finale de conférence, mais je ne suis pas exactement sûr.
Le truc avec Boston, c'est qu'ils arrivent en finale NBA, ça c'est rarissime, invaincus à l'extérieur.
6 de suite.
Et même si on peut toujours trouver à redire sur le cheminement, sur les événements qui s'alignent bien pour eux, sur les petits coups qu'il y a eu, ils ont su aller les chercher et les garder sans Kristaps Porzingis. Pour revenir à ta question, oui, Boston sera favori avec un Porzingis opérationnel pour 2-3 choses. La première, c'est qu'ils ont gagné 64 matchs dans la saison régulière et qu'ils ont dominé, même si depuis le transfert et les trades, Dallas, le mois de février, était au niveau de Boston. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain. Le troisième point, c'est qu'ils savent pertinemment, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais c'est qu'ils seront jugés que sur la finale.
Ah bah oui,
parce
oui.
Que le fait qu'il n'y ait pas Embiid, le fait que Milwaukee soit dévasté, que les Knicks se soient épuisés, que Cleveland n'ait pas donné ce qu'il pouvait donner, leur a donné un parcours très serein. Indiana a fait des très très belles choses pour arriver en finale, et surtout, ils sont restés sur 3 matchs si près de gagner que ça en est... On s'interroge avec Mathurin, avec Haliburton à la maison, ils auraient sans doute... Gagner un match, au moins. Voilà. Boston a un statut de favori aussi pour l'attente du 18e titre. Et finalement, la match-up de Dallas, si c'est Dallas, leur va beaucoup mieux que quiconque. Même si Luka et Kyrie sont des génies, ils ont de quoi en défense. Ces défenseurs élites d'Eric White, l'idée, l'intensité de Jay Brown, le côté casse-bonbon de Pritchard, tout ça, il va falloir que Joe Mazzulla, qui sera lui aussi jugé que sur la finale, la ligne est, oui, statut de favori, même si en face, vous le savez, Zab le sait, moi ça fait depuis un mois et demi que je dis que pour moi, Dallas va gagner. Mais le statut de favori, il est pour Boston, avec l'attente de ce 18e titre. Je crois que c'est la 24e apparition en finale. Les Lakers en ont 32.
Ils sont
à 23 ou 24.
Ils ne sont pas à 22, 22. Ils sont pas à 22 sur 17. Ouais, tout comme ça.
En finale, ils gagnent. Boston gagne très souvent.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Mais ils y ont moins été que les Lakers.
Ouais, tout à fait. Oui, ça sera forcément si c'est Dallas, un match-up clé, le duo Derrick White et Jrue Holiday. Ça peut vraiment poser des problèmes à ceux qu'on appelle de plus en plus comme le meilleur duo de la ligue actuellement, Luka Doncic, Kyrie Irving.
C'est fou ce qu'on peut envoyer en l'air comme sottise des fois.
Il y a deux semaines, c'était Anthony Edwards, le meilleur joueur de la NBA.
Voilà. Ouais. Et maintenant, Paul Pierce, puisque c'est lui qui a déclaré que c'était le meilleur duo de l'histoire de la Ligue. OK. Même pas derrière. Il n'avait même pas précisé derrière. C'était quoi la question?
Ils ont vraiment deux joueurs pour gêner.
Ouais, la match-up, oui, bien sûr. C'est totalement.
Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'intérieurs à Dallas qui vont embêter Boston si Porzingis est parvenu à 100%.
Oui, bien sûr. En termes de match-up, en tout cas en termes de défense, oui, il y aura un avantage Boston. Ça, c'est une certitude. À Jason Kidd de trouver des solutions. Des solutions, il peut en avoir. Il n'en aura peut-être pas énormément. Mais à eux de trouver le moyen de jouer leur basket au rythme de Doncic. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont pris le meilleur jusque-là sur Minnesota. Hein, c'est en imposant leur rythme à eux. On verra. C'est vrai que je trouve que Minnesota aurait fait un match-up plus intéressant défensivement parlant. Parce que ça, la meilleure équipe à 3 points contre la meilleure défense à 3 points, ça aurait été quelque chose. À l'intérieur, ça aurait été quelque chose aussi. Maintenant, on n'aura très certainement pas ça. Mais Dallas a ses armes. Hein. De toute façon, ils auront... ouais, franchement, les deux premiers matchs à domicile, pour moi, vont déterminer énormément de choses sur la suite de la série. Boston s'est raté deux fois à domicile, mais dans les circonstances. Est-ce qu'il y a un seul moment où on s'est inquiété pour Boston quand il y avait un partout? Jamais. Est-ce qu'on va s'inquiéter pour Boston si jamais il y a un partout sur cette finale? Ah, peut-être un petit peu plus. Mais c'est vrai que là, au moins, ils vont être challengés pour de vrai, pour la première fois des playoffs Dallas, que ce soit Boston, que ce soit contre Dallas ou Minnesota. Oui, il y aura une opposition qui sera bien plus intéressante. Maintenant, voilà, Indiana n'a pas démérité. Ouais, c'est un 4-0. 4-0, c'est très, très dur. Quand on voit le match 1, quand on se souvient du match 1, ça fait vraiment mal à la tête.
Même
quand
le
tu
4,
sais
hein,
que tu...
Même le 4, cette
même
nuit.
Le 4, bien sûr. Le 3.
Et le 3 aussi, moi, tout, ça en parle 2.
Parce que si jamais leur tactique à la con, là, qui était formidable, si ça tombe dedans, eh ben, on insiste à un coup de génie. Eh ben voilà,
ça, c'était vraiment pas mal, ça.
Et là, aujourd'hui, il y a 7 points d'avance. Ils mettent pas un panier en 3 minutes 40. Et ils sont quand même pas loin. Et c'est un faux 4-0, mais absolu. Mais c'est un 4-0.
Tout près, très loin.
Mais c'est ça.
Bah souvent, quand tu prends 4-0, enfin quand tu perds de peu à chaque fois, c'est qu'il y a quand même une raison.
Le premier, il détermine tout. On en avait parlé avec la caricature du fameux Orlando-Houston de 95 en finale.
Ça, c'est exactement ça.
Imaginez, mentalement, pour Boston, s'ils font 2-0 sur les deux premiers, ils vont à l'extérieur où ils sont invaincus depuis les playoffs. Donc ça va être très bizarre. Le 1-1 nous garantirait une série longue. Je trouve que si, alors bien évidemment que Kyrie et Luka sont un duo exceptionnel, alors de là à parler de l'histoire de la NBA.
Non, pas l'histoire de la NBA actuellement. Alors, l'histoire de la NBA,
mais
faut pas déconner.
Mais en face, des défenseurs plus élites que de Jrue Holiday et Derrick White. Je crois qu'il n'y en a pas.
Non, puis le Doncic, il s'est un peu... Avec Lou Dort au deuxième tour, il s'est déjà coltiné des sacrés
de joueurs,
défenseurs.
En NBA, à l'heure actuelle, il y a peu de joueurs qui sont capables de mettre la pression que met Lou Dort. Il y a Dylan Brooks, auquel je pense tout de suite. C'est à peu près tout.
Ouais.
C'est à peu près tout. Des mecs capables comme ça de te rendre fou par le contact physique, par l'intensité, parfois même par les cris, ils sont des physiques qui vont vite, qui se déplacent vite latéralement. Ils sont gaulés comme des pierres à feu, comme des Flintstones. Les deux sont deux blocs et ils sont un peu méchants aussi, hein, très agressifs, méchants entre guillemets. J'en vois pas capable de faire ça à Luka. Alors si Josh Green peut être dans son registre, Derrick Jones a montré côté Dallas des choses pour les éteindre quoi, pour les éteindre, mais les Bostoniens, mais côté Boston, j'en vois pas des rudes. Un Pritchard peut enquiquiner, Kyrie, peut-être Luka pendant des séquences de 1 minute, 2 minutes, Strother, comment il s'appelle le shooter?
Sam Hauser. Non, là,
non, ça peut pas dépendre.
Non, mais, non, mais tout va dépendre de Derek White et de Jrue Holiday, mais qui ont peut-être, qui sont moins, enfin, pour Giannis ou Luka Doncic, il faut souvent, quand même, un physique, faut pouvoir lui rentrer.
Il arrive un moment où sur des joueurs de ce calibre-là, que vous avez très bien dit, c'est donner des minutes de défense et de, t'as 6 fautes à passer. Et il vaut mieux les envoyer sur la ligne, surtout que Dallas, c'est une de leurs irrégularités, ce sont les lancers francs, que d'attendre que le mec il te poste. Et tu sais, on peut reprendre Rudy quand il se fait mettre sur le skate et que l'autre il met le 3 points, t'as 2 points d'avance, il restera 8 secondes s'il shoot à la limite, pourquoi tu l'envoies pas sur la ligne? Tu lui donnes la possibilité de faire match nul, mais t'as la dernière balle et tu perds pas.
Non, mais ça, c'est la NBA. Enfin, en NBA, on fait pas faute.
Ouais,
voilà,
ouais,
c'est ça.
Ouais, mais bon.
Toujours la même histoire.
C'est toujours la même histoire. Je trouve que le coaching. Alors maintenant, j'ai vu que Jay Kidd le faisait faire. Bah, c'est Luca qui doit leur dire.
Oui, en Europe, on fait comme ça et ça marche.
Ça peut marcher. Ça quoi. Peut marcher. C'est vrai que si tu prends des lancers francs, les ricains, ils fantasment avec le côté.
Le game winner, le buzzer beater.
Non, et puis surtout. S'ils considèrent que si t'as 3 points d'avance, si le mec, tu l'envoies sur la ligne, il va mettre un lancer, ils vont jouer le rebond offensif, récupérer, ressortir à 3 points et marquer à 3 points. Mais ça, c'est dans les bons films. Ça arrive pas souvent, les happy endings.
Ouais.
Ça arrive. Mais c'est pour ça que ça les bloque. Moi, je comprends pas. Le ratio efficacité-risque est quand même en faveur de la faute.
Quel avenir pour les Pacers avec un Pascal Siakam qui pourrait être free agent? Il a pas totalement dit cette nuit qu'il était certain de re-signer. Enfin, il a laissé quand même passer nul doute.
Oui, mais c'est normal. Ça, c'est pour faire gonfler le chèque.
Il y a aussi voilà une histoire de gros sous derrière, sachant que c'est Indiana qui pourra lui proposer le plus et le contrat le plus long. Les Pacers qui avaient quand même lâché Bruce Brown.
Dans
la trade deadline pour le récupérer, plus deux premiers tours de draft, ce qui est pas de la prochaine draft, ce qui est quand même beaucoup. Pour Indiana, c'est vrai que il faut absolument re-signer Pascal Siakam pour ce projet et pour une équipe.
C'est rien.
Non, pas forcément. Zab.
Absolument, j'en sais rien. Est-ce que ça peut pas se finir aussi par un sign and trade? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de le garder? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? J'en sais rien. On verra bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour pouvoir aller pour retourner en finale de conférence l'année prochaine? Finalement, pas grand-chose. Donc, oui, on peut penser tout de suite évidemment à re-signer Siakam. Faut regarder ce qu'il y a un petit peu dans la free agency. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, au niveau de Siakam sur ce poste-là, je crois pas avoir vu. Enfin, si peut-être un certain LeBron L. Mais bon, j'y crois.
Alors,
j'y crois pas les masses.
LeBron a signé au Pacers, ça.
J'en sais rien. Et encore, oui, tu vises pas sur l'avenir.
Non, c'est sûr.
J'en sais rien. On verra. Ils ont. En tout cas, ils ont des possibilités. Indiana n'était pas pour autant la deuxième meilleure équipe de la conférence Est cette année. Il y a eu des faits très importants. Est-ce que avec cette équipe-là, ils pensent qu'ils peuvent y retourner? Je suis pas sûr. Il va falloir se renforcer peut-être différemment, réfléchir à d'autres choses parce que Embiid va revenir. Parce que l'année prochaine, les Bucks, ce ne sera pas la même équipe. Ils vont revenir à 100%, normalement. Voilà, il y a les Knicks, pareil. Ce sera beaucoup plus compliqué d'y retourner l'année prochaine. Donc, il faut réfléchir aussi avec tout ça aussi. Donc, re-signer Siakam, peut-être. Mais ce sera pas, il n'y aura pas que ça à faire. Et puis, même avec Mathurin, en plus, oui, ils seront peut-être un top 4, top 5. Mais pour progresser, il va falloir réfléchir.
D'abord, c'est une belle saison pour les Pacers. Il y a une season, ils vont en finale, ils tordent Boston, ils sortent Milwaukee, ils sortent tout le monde, ils vont en finale. Bon, belle aventure. Ils prennent date, après, l'équipe, elle part en vrille un peu. Hein. Liberton nous fait une Carl Anthony Towns et il fait un peu n'importe quoi. Moi, je trouve que l'arrivée de Siakam, c'est un succès. C'est un succès. Alors,
il a mis son temps à venir, mais c'est vrai.
C'est surtout concrétisé en play-off, ouais, et on a vu que ça pouvait très bien fonctionner.
Ouais, ça fonctionne bien. Alors après, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tu sais, il faut parfois aussi, quand on regarde l'âge des équipes, ils sont très jeunes. Mathurin est absent.
Nembhard
a beaucoup progressé. Shepard a beaucoup progressé. Obi Toppin fait une bonne saison. Ils ont à l'intérieur, bon, ils n'avaient plus Jalen Smith, mais Isaiah Jackson a montré de belles choses en play-off. Turner n'a jamais été aussi bon qu'en play-off, même si c'est à mon avis là qu'il faudrait qu'il y ait plus de régularité et qu'il faudrait renforcer le poste, sachant que Jackson peut faire les deux. Oui, Siakam est un bon fit. Je crois que c'est un mec qui a envie de s'installer. Il peut le progrès de Indiana, c'est pas obligatoirement du recrutement, c'est le travail de leurs jeunes. Ils sont tous hyper jeunes. Il faut juste qu'ils progressent, qu'ils se développent, qu'on leur laisse un peu de temps et qu'on voit s'ils y arrivent avec Haliburton, Shepard, Nembhard, Nesmith, Mathurin. T'as des Obi Toppin, t'as déjà tout un tas de gamins là. Donc on verra ce qu'ils vont piquer à la draft, même s'ils se sont mis un peu en péril avec l'avenue de Siakam. Moi, je crois que la première des choses, c'est cultiver son jardin. Hein, c'est Voltaire, ça. Il faut faire progresser ces mecs qui sont jeunes. Alors oui, après, le recrutement, il n'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand monde sur le marché, c'est vrai. Mais des fois, un fit te fait franchir un niveau. À Denver, quand ils prennent Bruce Brown, ils ne savent pas qu'ils vont être champions avec lui. Qu'est-ce qu'il était la valeur complémentaire des autres. Idem pour Jeff Green. Des mecs comme ça, il faut trouver le bon fit un peu à l'intérieur, et peut-être en sérénité extérieure, parce qu'Haliburton, il a des fois les fils qui se touchent, parfois les fils qui se touchent. Mais
il est jeune aussi.
Il est jeune aussi. Il faut avoir... C'est comme en foot, tu sais, quand on ne parle que du recrutement, machin. Il regarde ce que t'as, protège-le, considère les marges de progression que t'envisages, les oppositions que t'as dans ta division, puis dans ta conférence, et tu vas voir.
L'avantage à Indiana, c'est qu'on a peut-être aussi peut-être un peu plus de temps pour construire parce qu'il y a aussi moins de.
Et puis il y a progression. Puis il y a une progression terrible.
Ouais, ouais.
Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas. 10 ans qu'ils n'avaient pas été en finale de conférence.
Eux, c'est simple, c'est tous les 10 ans. Normalement, la prochaine fois, c'est en 2034.
C'est avec Paul George la dernière fois.
Oui, absolument.
Danny Grand George.
Deux années de suite, avec Yan Mahimi.
Avec Yan Mahimi, bien sûr.
Oui.
Pour revenir sur les finales NBA, il y a un joueur qui pourra quand même être un peu le fil rouge de cette future série. Si c'est Dallas, évidemment, c'est Kyrie Irving qui pourrait retrouver le TD Garden avec qui il a une relation assez compliquée.
Ça va être particulier, ouais.
Lui qui avait parlé à un joueur de racisme subtil en tribune pour parler des supporters de Boston, qui a fait un doigt d'honneur aussi en 2022 quand il jouait avec Brooklyn, et puis cette fameuse promesse de prolongation à Boston.
Il y a pas eu aussi un petit marché sur le Leprechaun au milieu, non?
Si, sur le, bien sûr, tout à fait. Et cette promesse de prolongation avant de signer un an plus tard à Brooklyn, ça va vraiment être sympa. Et je vous en parle à vous parce que vous allez être au TD Garden. Ça va être assez poivré, si c'est Dallas.
Voilà,
si c'est Dallas,
exactement ce que j'allais dire.
Si c'est Dallas,
j'ai du mal à me projeter tant que c'est pas officiel. Vendeur de machines à laver, où je voudrais que nos abonnés aient une super fin de série. Et donc ce soir, j'espère que Minnesota va gagner.
Pour ça que t'as mis ce costume là.
Oui, exactement. Voilà.
4-3
t'as ton badge dans la poche, non?
Oui, si tu veux. Mais c'est vrai que le retour de Kyrie à Boston, ça va être une dinguerie. Ça, c'est sûr. Bien plus que le retour de Porzingis à Dallas, par exemple, puisqu'il faut quand même pas oublier que Porzingis est passé par les Mavericks. Ça, on l'oublie, parce que c'est vrai que c'est bien plus vendeur, Kyrie.
Oui, bien sûr. Il a pas fait de donneur au public, Porzingis aussi.
Non. De toute façon, ils l'ont pas vu beaucoup jouer déjà à l'époque.
Non, assez peu.
Ça n'a pas été le bon moment pour Porzingis. On a toujours su son talent, etc. On sait très bien qu'il peut apporter quelque chose quand il signe à Boston. Tu dis, écoute, oui, ça peut fonctionner si il est là. Bon, en ce moment, il ne l'est pas, mais normalement, il sera là pour les finales, bien sûr. Mais le retour de Irving à Boston, ça va être un délire, mais ça va être fou. Ça va être fou.
Ouais, ça va être
en finale comme ça,
Garden en
ça
fusion,
va être fou. C'est peut-être le meilleur moyen de l'énerver aussi et de le rendre encore plus fort.
Ça fait 10 matchs de suite, je crois qu'il a perdu.
C'est incroyable. C'est pas tellement le match, les joueurs, ils sont dans le truc, t'es 5 et tout. C'est quand ils vont débouler, lui et Luca, pour l'échauffement personnel. Parce qu'à Boston, c'est la seule salle des États-Unis vraiment où le public commence à chambrer à l'échauffement. Chaque fois que Steph Curry manquait un shoot à l'échauffement, c'était une ovation. Tu vois, ils chambrent, ils sont sans arrêt là. Et c'est vrai qu'alors, au-delà des incidents qu'il y a pu avoir, l'attente du public de Boston de ce 18e titre, le ras-le-bol de pas avoir de titre de champion depuis 2008, jusqu'au bout, deuxième finale pour cette génération qu'on va définir comme Tatum Brown, leur réputation assumée d'être avec New York, un des publics l'est pas. Tous les publics sont chauds. Là, il est chambreur. Et chambreur piquant. piquant. Et Luca, c'est un bon client aussi, hein, parce que et si Luca voit que Kyrie se fait défoncer par le public, il va le prendre pour lui aussi en voulant jouer le justicier mal masqué.
Il va en vouloir pour lui aussi.
Et ça va être une rencontre exceptionnelle, si ça a lieu, entre Luca, Kyrie et les fans de Boston. Mais ça, ça va être un truc de dingo. Dingo.
Boston sera, Dallas saura le rendre à Boston, à Dallas.
Ouais, mais là, il n'y aura pas un ciblage sur deux mecs. Ce sera tout le monde. Parce que ça a l'air bien chaud au Texas aussi, là. Au-delà de la température.
C'est une super salle.
33-35.
Oui, t'as vu, il va faire chaud. Hein, oui.
Et on ne sait pas trop pour Dallas, mais on s'est déjà regardé là. Ça fait comment
j'ai regardé aussi pour Minneapolis, si tu veux savoir.
Ouais, il fait moins chaud normalement.
Tu sais comment on travaille le truc. Parce que si ça avait été un final Indiana-Minneapolis, Indiana-Minnesota, pardon, de Indiana... Police à Minneapolis, il y a deux avions ou 900 km. C'était vite vu. Hein. C'était vite vu. Hein. Non, on a regardé. Et à Boston, par contre, il va cailler à l'extérieur, si tu veux tout savoir. Mais ton parisien complet.
De merde, donc.
Il pleut tout le temps en ce moment, oui.
Mais
oui.
C'est une finale. Alors, sur Minnesota, la match-up est très différente. Mais sur Dallas, la match-up se ressemble beaucoup. La match-up, c'est l'opposition directe sur poste, avec des gros talents sur chaque poste. Avec Minnesota, c'est plus déséquilibré. On aura peut-être l'occasion de faire un retour sur Minnesota. Moi, je vais juste dire un truc. Qu'ils vont peut-être être sweepés, ils vont peut-être pas être sweepés, peu importe. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse coacher à ce niveau-là. Ce qui est arrivé à Chris Finch est trop difficile. Et je suis très surpris que personne ne le reprenne. Coacher du deuxième rang, c'est non. Et j'y vois là des moments de perte de lucidité d'Anthony Edwards, bien sûr de Karl-Anthony Towns, des moments de motivation pour un tel ou un tel, de communication avec Conley, Nigel Alexander Walker, le boss de la défense qui est Rudy. On peut pas coacher du deuxième rang et par procuration.
On et le voit parfois se lever, exemple, il est proche, il se rapproche parfois du terrain, mais ouais, c'est ça.
Et tu vois, vous voyez, pardon, Xav, ça m'est venu hier, je me suis dit, mais le coaching de Karl-Anthony Towns, qui donc ne joue pas dans le quatrième quart-temps sur le match 3, et qui joue trop dans le match 4, oui, Chris Finch en arrive à dire, c'était, ça faisait peine à voir. Est-ce qu'il l'aurait mis aussi longtemps s'il l'avait pas laissé sur le banc le coup d'avant? Et c'est pas lui. Je pense que c'est très difficile. Mika Nori, j'ai rien contre lui. Ce que je vois, c'est que Pablo Prigioni essaye de faire le lien entre Chris Finch, les joueurs, Mika Nori. Que entre Mika Nori et Chris Finch, je vois pas beaucoup d'échanges. Et que Mika Nori, ben pour l'instant, c'est pas encore un coach NBA. Je lui souhaite de le devenir un jour. Et qu'une finale de conférence, dans les circonstances qu'ils ont eues, c'est en sortant de la bagarre contre Denver avec la jeunesse d'Anthony Edwards qui 22 ans.
Ouais, il aura 23 ans là.
Oui, 23,
cet été,
si
ouais.
Tu veux.
Non, mais il a 22 ans.
Sur les Jeux Olympiques de foot.
Ouais, c'est vrai. Nous on cherche un attaquant pour l'équipe de France potentiellement.
Antoine Griezmann.
Voilà.
Antoine Griezmann, ouais.
C'est une info. Oh, c'est une info NBA extra.
Absolument pas. Une info.
Ouais.
Non, mais on sait.
Un de ses grands potes historiques, et ils ont jamais joué en club ensemble. Et c'est bien la faute de l'OL. C'est Alexandre Lacazette. Ça pourrait faire de solutions âgées de plus de 23. Ben voilà, on se met à parler de foot maintenant. Mais sur la Turquie, t'as rien?
Non, ça va pas vous intéresser. juste pour terminer, j'ai raison ou pas? Sur Anthony Edwards, lui qui avait été si bon pendant la première moitié des playoffs, qui connaît un gros creux depuis plusieurs matchs. Alors ça a été un peu mieux sur la dernière partie dans le Game 3. Comment on explique, Xav, un tel coup de mou à un tel moment de la saison? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est juste un manque d'expérience? Est-ce que juste ça veut pas rentrer et c'est comme ça?
Moi, tu sais, j'aime bien tourner les choses dans le côté positif. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est pas bon, c'est peut-être parce qu'il y en a un autre qui est meilleur. Peut-être que la défense, justement, de Dallas a tout compris pour empêcher Anthony Edwards d'avoir le ballon, en tout cas d'être bon. Après, effectivement, il a pas forcément eu l'adresse qu'il a eu habituellement, même dans les tirs ouverts. Mais crédit à ce que fait Jason Kidd, parce qu'ils ont réussi à retourner complètement le jeu des Team Rolls depuis le début de la série. Donc voilà, moi je donne plutôt du crédit à ce qu'ils font en face, contre Anthony Edwards plutôt que de démonter Anthony Edwards qui est un gamin qui apprend. Mais c'est pas aujourd'hui il apprend. Jacques parlait il y a pas longtemps de puisqu'il faut absolument le comparer à Jordan. Très bien, bah, comparons-le à Jordan. Jordan, il s'est fait démonter la tête par les
Pistons. Il prenait des sweeps à cet âge-là, ouais.
Voilà. Donc écoutez, ça l'a empêché de devenir Michael Jordan. Non, donc Anthony Edwards. Bon ben bah, là effectivement il prend un mur dans la tronche. Comme tu le disais, c'était vraiment mieux au match 3 pour le coup, même si il y a encore d'autres choses qui étaient bien plus compliquées parce qu'on cible Anthony Edwards, mais on oublie de parler de Karl Anthony Towns, ce qui est quand même pas bon du tout depuis la même chose. Voilà, c'est pas très grave, je veux dire, il apprend, c'est un gamin qui apprend. Voilà, on le retrouvera plus fort au fur et à mesure, Anthony Edwards.
Bon, pas trop fort au JO, on espère quand même pour les Bleus. Coach, un truc
bah tiens, justement, il peut te le faire payer, celui-là.
On va pas parler d'États-Unis pour les Bleus. Notre problème, il est inqualifié, le Japon et l'Allemagne, dont je rappelle qu'elle est juste championne du monde.
C'est ça.
Anthony Edwards, il a perdu en ce moment le mojo à 3 points. Ça change beaucoup de choses dans son jeu. Il est toujours aussi fort en pénétration et quand il porte son équipe dans le troisième quart-temps, c'est sur du drive, c'est sur du 2 points avec la planche. Et on voit qu'il est moins fluide. Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, la défense a bien le chercher à 3 points pour l'embêter. Ils défendent très bien à 3 points. Ils ont beaucoup de joueurs, son poste. T'as Derrick Jones qui lui a fait un travail extraordinaire. Derrick Jones Jr. a passé un cap défensif absolument extraordinaire. Josh Green est un sacré pitbull aussi.
Ouais, c'est un bon soldat, ouais.
Tu peux avoir aussi un Dante Exum, des mecs comme ça qui jouent pas en ce moment, mais qui peuvent être sacrifiés et donner des fautes.
Tim
Hardaway Junior, qui pour l'instant... Dallas, c'est simple. Hein.
Mais il joue à 8 ou 9, hein, de toute façon, Dallas.
Oui,
c'est ça qui est impressionnant
avec
aussi.
Des rôles. Ouais. T'as 2 mecs qui ont le ballon, et faites le cumul du nombre de dribbles posés dans le 5 par Derrick Jones, par Gafford et Washington, le nombre de dribbles posés. Ça doit être moins que le nombre de shoots qu'ils prennent. Les deux autres, t'arrêtes pas. Et que les Jekyll, là, ils te font toup, toup, dans tous les sens, création de jeu à droite, à gauche, au milieu, pick and roll, remontée, écran, la balle bouge bien. Jekyll, il a organisé un truc où si en début de saison, on me dit Tim Hardaway sera 8-9e homme et Derrick Jones va être titulaire, tu dis, oh mec, arrête de manger la pelouse, quoi, ça suffit. Eh ben, c'est la réalité. Et ça, c'est une équipe de basket construite. Quand Derrick White signe à Boston, est-ce qu'on pense qu'il va être titulaire dans le 5? Pas évident. Alors, il est peut-être pas dans le 5 s'il y a Porzingis. Ça dépendra des match-up. Horford, pas Horford, et tout manque 4, patin. Tu peux tout faire plein de choses, mais c'est ça le basket. Ce sont des rôles. Pas que des highlights, des actions individuelles. La cohésion, c'est ce qui manque à Minnesota. Xavier parlait de Towns. Je crois qu'il est à 15 sur 56. Poste 4, on va me dire, il shoot externe. Bah oui, mec, mais
on a remarqué ça.
C'est une chose de shooter, c'est une autre chose de scorer. Et il faut quand même cibler son jeu. Il n'était pas du tout... Ils ont perdu toute lucidité. Et je trouve que Mike Conley n'a pas pu contrôler son équipe. On en revient toujours à l'élaboration.
C'est vraiment une très mauvaise série.
Il était blessé, Mike Conley. Il est même sorti à un moment, il est revenu.
Alors, il est revenu.
Il a raté un match dans
de,
les playoffs.
De la série d'avant.
Ouais, la série d'avant.
Alors, peut-être qu'il n'est pas au top physiquement.
C'est pour ça qu'Anthony Edwards passe son temps à remonter la balle aussi.
C'est un peu sa nature.
Ouais, mais là, c'est quasiment tout le temps. Ouais.
Oui, bien sûr. Nigel Alexander Walker a disparu aussi du niveau. Pour l'instant. Donc, tu as la ligne arrière qui a explosé. Et quand, je ne vais pas dire que c'est son cornac, mais quand un joueur reçoit des ballons en timing de Conley, avec Conley, tu perds efficacité sur Rudy, tu perds efficacité sur lui, même si là, il a mis 16 points au dernier match. Bref, derrière, ils n'ont pas tenu la marée. Voilà. Et dedans, bon, on pouvait s'attendre à ce que Karl-Anthony Towns pète en l'air comme ça, parce que mentalement, il est trop fragile. Et Nasrid met des paniers, il prend peu de rebonds. Et Rudy prend des rebonds, fait des comptes, mais il met peu de paniers. Donc tout ça, Towns, c'est celui qui est censé faire les deux. Il a fait n'importe quoi jusqu'ici. S'il y a une chance pour que Dallas ne gagne pas ce soir, cette nuit, c'est que Edwards a foutu dedans à plus de 50% et que Towns en colle 25%. Il y a une réalité, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire que shooter, c'est construire le jeu pour. Sachant qu'il n'y aura peut-être pas Lively ce soir et que même si Maxi Kleber revient, derrière Gafford, tu
je
manques de verticalité.
Je pense pas qu'il joue ce soir non plus. Hein.
Lively?
Non, Kléber.
Kléber. Non, ils vont le garder.
Questionable, ils vont le garder au frais.
Mais 4-1, 4-2, Dallas a des balles de match devant. Ils en ont 3 devant.
Eh ben, on verra ça cette nuit, si Dallas arrive à terminer le travail et à rejoindre très vite Boston en finale. Début des finales NBA le 6 juin, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il se passe sur la fin de la conférence Ouest.
Sur Bill Walton.
Oui.
Légende. Qu'il repose en paix. Légende du basket universitaire avec UCLA qui avait pris la succession pour l'Amérique de Karim Abdul-Jabbar auprès de John Wooden et cumule de titres avec UCLA, la génération hippie, son amour du Grateful Dead, des frères Garcia, sa carrière enquiquinée par une cheville, son côté Bill le Rouge qui fait gagner Portland en 77 avec le regretté Dennis Johnson. Et tous les deux ont la particularité de s'être retrouvés à Boston pour le titre de 86. C'est ça, 5 ou 6, je sais plus.
86.
Avec Larry, McHale, etc., etc. J'ai lu ce matin sur un journal de référence qu'il était le remplaçant de Larry Bird. Alors, en aucun cas, il était le sixième homme et il jouait pivot et plus souvent à la place de McHale ou le Chief Parrish que ça. Après,
c'est un ancien MVP qui a eu le trophée de meilleur sixième homme, Bill Walton, dans sa carrière. C'est quand
même un personnage super truculent, incroyable.
Et qui est resté très proche de la ligue tout le temps. Ouais. Que ce soit en tant que consultant, on le voyait tout le temps dans les salles, NCAA aussi, bien sûr. Enfin, ouais, c'est quelqu'un qui est resté toujours très proche, je veux dire, du basket d'ailleurs, plutôt que de dire de la NBA.
Et une voix sociale, hein, Xavier.
Ouais, bien sûr. Sociale. C'était, on s'en rend pas forcément compte ici en France, mais Bill Walton, c'était quelqu'un de très très apprécié outre-Atlantique, très important.
En tout cas, c'est 71 ans. Hein. Il aura marqué son temps. Sa blessure terrible à la cheville, son retour par les San Diego Clippers à l'époque, et puis après cette espèce de revival qui, toute proportion regardée, pourrait ressembler à ce que a fait Kristaps Porzingis avec Boston, d'arriver dans l'institution Boston. Il a, lui, le mec de la Californie, Bill le Rouge, le bandeau, les cheveux, il est arrivé dans l'institution très classique bostonienne, et ça a été un feat incroyable. Ça a été un feat incroyable. Voilà. Paix à son âme.
Messieurs, merci pour votre participation, votre disponibilité.
Bientôt.
Et si on ne refait pas de podcast ensemble, et ben on se parlera depuis la France et vous, les États-Unis, dans le froid.
Exactement.
Bostonien et dans la chaleur de Dallas.
Oh, un froid relatif.
Oui,
un froid parisien de Boston ou bostonien de Paris.
On y mange bien.
Merci beaucoup. Ciao.
Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Avec nous, Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On démarre avec un témoignage particulièrement révélateur des problèmes d'addiction, celui de Paul.
J'ai débuté les paris sportifs à mes 18 ans. Très vite, j'ai eu un gros gain. Je pariais non-stop. Je l'ai caché à mon entourage. Ça a duré plus de 9 ans et je me suis retrouvé à une situation de surendettement.
Mohamed Bouafsi, votre analyse ?
Quand il commence à jouer, Paul, il est très jeune. Qui dit jeunesse, dit vulnérabilité. Et après ça, on tombe dans le jeu compulsif, l'engrenage, on croit qu'on peut gagner facilement et rapidement de l'argent.
Laurent Carilla, comment on tombe dans le jeu problématique ?
Il y a d'abord ce gain avec des émotions difficiles à gérer. Il y a d'autres étapes qui s'ajoutent, la perte, l'espoir de se refaire. Et l'étape d'après, c'est le désespoir avec ses conséquences. Tous les joueurs, même modérés, peuvent basculer dans le jeu problématique.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.